Radio Éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le 14 mai 2005, il fait beau, il fait chaud et comme tous les samedis nous ouvrons avec les magazines, supplément week-end, on va parler de bande dessinée, cinéma, télévision, puis le cahier du sport et à partir de 15h de la musique avec Zarma Farah et du reggae, 17h vie d'ordure, du punk, Back in 17-7, 18h30 Clark Nova, de la pop communiste pour les ouvriers Bac plus 5, 20h Last Hetero Experience, 21h30 Liquid Sky et à 23h Breakbeat Experience. Voilà, vous êtes sur Radio FMR et à Toulouse, il fait très très beau quand même, on peut le dire.
Oui, on peut le dire, oui.
Ah bah tant mieux. Alors bon. On y va, ça va chier des belous.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Eh ben aujourd'hui on va faire un supplément week-end. Ouais non, à chaque fois c'est moi qui fais tout le boulot. Et tu sais quoi, pour une fois c'est toi qui vas faire pratiquement tout.
D'accord, tu vas mixer en fait, c'est tout.
Ouais ouais, j'ai une spéciale flemme aujourd'hui comme
ouais,
ça.
T'as raison, t'as bien le droit de te reposer des fois.
Ignorance.
Il s'agit donc de Linda Lang qui a fait donc le générique de ce supplément week-end. Pour le titre, c'est Party Spirit. Il s'agit du remix de Laurent et Lewis Stafford. Et Linda Lamb est l'un des artistes du label Sweet Smelling Surfaces dont on a reçu la semaine dernière Tampopo, donc qui en est l'initiateur et le chef d'orchestre, mais l'homme un peu à tout faire, c'est-à-dire hébergeur, sélectionneur, etc. Et ce soir, Tampopo sera en concert à partir de 21h30, 22h à l'auditorium des abattoirs, parce que tout simplement, ce soir, c'est la première nuit des musées, donc les musées seront ouverts en nocturne. Profitez-en, c'est gratuit, c'est une occasion de découvrir d'une manière différente, avec une couleur, une lumière différente, des lieux, des œuvres d'art, des expositions, et enfin à mon avis va encore faire bien beau, etc. Ça va être une belle occasion de sortie, je pense.
Oui.
On pourrait se faire un petit pique-nique, d'ailleurs je pense à côté du jardin des abattoirs. Hein, ça pourrait être assez rigolo. Donc ça c'est ce soir à la Cinémathèque. Donc Linda Lamb ne jouera pas, c'est Tampopo qui jouera des titres à lui et des titres donc de son label.
Xavier, ce n'est pas la Cinémathèque, c'est aux abattoirs.
Aux abattoirs, excuse-moi. Quoi, déjà ? J'ai déjà marqué un point ?
Ouais, ouais.
Bon, d'accord.
Comptabilisé.
Ok. Il y a des choses qui sont surprenantes dans la vie, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment dire ? La bande dessinée, on a dit, c'est en France, c'est plus que de l'album, ça n'est absolument plus les bouquins de prépublication, c'est-à-dire que on ne retrouvera plus le plaisir en kiosque des premiers albums, etc. Non, ça c'est fini, c'est définitivement fini. Enfin, du moins ça, on en était persuadé. Quand on voyait quand même à quelle vitesse la plupart des journaux disparaissaient. Et puis à côté, ben il y a des journaux. On n'en revient pas. Ils existent encore. À savoir, eh ben, par exemple, Spirou. Spirou fête son 3500e numéro aujourd'hui. Spirou est une revue de prépublication qui est sortie en 1938, qui à l'époque d'ailleurs prépubliait aussi du Mickey, il faut le savoir, en Belgique, puisqu'ils avaient la licence. Et dès le premier numéro, eh ben, donc, il y avait Spirou qui apparaissait, il y avait Tiff et Tondu, entre autres. Il faut savoir qu'il a fallu quand même 5 ou 6 numéros, je crois, avant que Tiff et Tondu se mettent ensemble. Et depuis, eh ben, c'est devenu une success story, non seulement vis-à-vis de ce qu'est Spirou en soi, vis-à-vis de ce qu'est Spirou, comment il a évolué, c'est-à-dire c'est plus seulement le personnage qui fait des aventures avec Fantasio, etc. Il y a aussi eu le Spirou adulte qui a été fait par Tom et Jean-Ry. Il y a eu le petit Spirou créé par les mêmes auteurs. Il y a eu le Marsupilami créé par Franquin et qui d'ailleurs Franquin a repris. Et d'un autre côté, il y a le magazine Spirou, tous les personnages qu'il y a dedans. On est loin, très loin du côté éducation bien pensante et belles histoires de l'oncle Paul, puisque maintenant dans Spirou, eh ben on trouve Soda. Le tome 11 est enfin sorti, il est en cours de prépublication, et Soda c'est pas quelque chose de spécialement tendre hein, quand même pour les gamins. C'est du polar très violent, digne de NYPD Blues, et là je suis sûr que du sport est d'accord avec moi. Et à côté on a des trucs assez délirants, puisque il y avait les auteurs de Félix Glacial, on va en parler tout à l'heure, qui ont participé dans Spirou. Ils sont inversés, c'est-à-dire les auteurs de Spirou qui sont allés chez Fluide et les auteurs de Fluide qui sont allés chez Spirou, comme ça pour déconner. Et ça nous a refait découvrir plein de choses. Il y a la fille fille et aussi collaboratrice Ah, ça y est, trop de mémoire.
De quoi ? Du professeur Choron ?
Non, du frère dédicat, j'ai oublié. Celui qui fait le psychopathe illustré. Donc, il y a plein d'auteurs qui sont originaux. C'est resté une revue absolument intéressante. Et on en reste pantois. On se dit finalement, Spirou, c'est quelque chose qui est resté dans les mœurs. C'est le dernier hebdomadaire de bande dessinée qui existe en France, du moins en langue francophone. Et c'est bien dommage d'ailleurs, hein, ça manque de diversité, mais d'un autre côté, ben voilà, c'est resté tout à fait vivant. Dedans, il y a plein de séries à découvrir, plein de jeunes auteurs aussi qui sont prometteurs, puisque une revue, ben c'est ça que ça permet, à pouvoir donner un ballon d'essai, un galop d'essai à des jeunes dessinateurs et leur dire non, ça, écoute, t'es à chier, ou ben non, pourquoi pas là, et c'est comme ça, dessine comme si, comme ça qu'il y en a plein qui, dans Spirou, ont débuté en faisant un petit crobar qui a été édité soit dans Spirou mais aussi dans Tintin, dans Pilote, etc. Toutes ces revues qui ont disparu. Bref, le Spirou numéro 3500 avec le petit gamin à poil, et comme quoi il a toutes ses dents, hein, le genou. Il a, oui, il a quand même près de 75 ans et aucun souci de ce côté-là. À noter que, alors ça concerne personne à Toulouse, je sais, mais si vous êtes en Belgique, puisqu'il y en a qui nous écoutent sur le flux, toute la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle du 14 mai, si vous avez le Spirou numéro 3500, et ben vous allez à l'exposition qui a lieu à Bruxelles, Made in Belgium, pour les 175 ans de la royauté belge, et ben vous avez une très importante réduction qui vous est offerte pour découvrir justement dedans, il y a une grosse expo sur Franquin, donc ça est l'occasion. Vous savez, Franquin, le héros sans emploi, lui aussi on lui a donné un galop d'essai, lui il en a fait des dégâts dans Spirou, hein.
Ouais, Gaston.
Voilà. En rapport avec le sujet que tu vas aborder tout à l'heure, Thomas, il y a un screener, c'est-à-dire on n'a pas vu le film, on en a vaguement fait un résumé, un screenshot, excusez-moi, de Dark Vader. Hein ?
Oui.
Bon, c'est assez rigolo, bref. Vous le verrez par vous-même, c'est la puce qu'il a fait, c'est bon, c'est dessiné sous Illustrator, mais en tout cas c'est assez rigolo.
Bon, voyons, enfin, comme pas...
la page. Ah bah je viens de la perdre, tu vois, c'est un peu idiot, hein. Attends, bah, non mais attends, on est en direct, hein.
Pendant que tu fais ta prochaine revue de presse, tu sais, je vais la retrouver, moi.
Oui, non mais attends, je sais comment ça commence comme ça, et puis après tu me les piques tous, hein. voilà. Zou.
Merci.
Voilà.
Ah oui.
Dans la revue. Ah oui, tout à fait. À noter aussi, dans les marges de Spirou, ils ont fait l'histoire du journal illustré en parallèle avec des événements de l'époque, de l'actualité. Donc c'est vraiment de l'histoire qui est proposée. C'est très très rigolo de ce côté-là. C'est vraiment bienvenu. Ils ont fait du bon boulot. Il y en a un autre journal qui est arrivé à tenir aussi longtemps et personne n'y croyait, il s'agit de Fluide Glacial. Ouais, Fluide. Vous savez, le magazine d'humour et de bande dessinée. Eh ben, figurez-vous que eux, ils fêtent leurs 30 ans, puisque le premier numéro était sorti le 1er avril 75. Il a été fondé par Alexis et Gottlieb. Gottlieb avait déjà quitté la rédaction de Pilote auparavant pour former un magazine de bande dessinée qui n'est plus un magazine de bande dessinée. Enfin, du moins, relativement peu. Il s'agit bien évidemment de l'Écho des Savanes, qu'il avait monté, entre autres, avec Bretechet, Claire Bretechet, qui avait monté la première librairie de bande dessinée à Paris. Et donc, Fluide Glacial, eh ben, fête ses 30 ans. Et figurez-vous que pour les 30 ans, eh ben, Gottlieb a décidé, à 71 ans, a décidé, ben, de reprendre le pinceau pour faire la couverture. Ouais, ça faisait vachement longtemps qu'il n'avait pas dessiné. Donc Gottlieb s'est remis à travailler. Ben ça tombe bien, hein, lundi on bosse pour payer ta retraite, espèce de vieux. Voilà. Pour les 30 ans, Fluide Glacial s'offre un numéro assez épais comme Spirou, mais aussi un prix beaucoup plus important, puisqu'il est de 7,50€, hein, quand même ça pèse d'un coup, blam. Mais c'est une revue avec pratiquement toutes les stars. Il en manque qu'un, c'est Coyote, parce qu'à ce qui paraît il changerait d'éditeur. On y retrouve Book, Blutch, Kaosar, Sestak, Margerin, s'il vous plaît, Thierrier, Volinsky, La Morte, le monsieur de chapeau noir, plus tout, Edika, Godelette, plus d'autres qu'on y voit un peu moins souvent, comme Dupuis Berberian, Kilofer, plein de dessinateurs en fait. Il y a même Volinsky, Johan et Aumont. Ah bon, s'il vous plaît.
Ouais, du beau monde, hein.
Zep, s'il vous plaît. Et ils ont fait un coup absolument ignoble dans Fluide Glacial. Ils ont décidé de prendre, ils ont organisé un casting de lecteurs du journal. Et ils ont essayé de trouver un lecteur qui a le même âge que le journal, qui soit né le 1er avril 1975. Ils l'ont trouvé. Il s'appelle Ludovic Vernois. Il touche son RMI dans le Nord, où il est assistant au service actualité de France 3 Pas-de-Calais. Ce brave monsieur s'est retrouvé invité dans toutes les planches de Fluide Glacial, c'est-à-dire Ludovic Vernois et le héros involontaire, entre guillemets, hein, de pratiquement toutes les aventures qu'il y a dedans. On le retrouve ainsi dans Chapeau Noir, on le retrouve dans le dernier Gossens, il se retrouve malheureusement face à un tétosaure, excusez-moi, de Godelette, c'est-à-dire qu'en général ça se finit assez mal aux fesses.
Il fait juste des caméos ou c'est vraiment le héros des aventures?
C'est à la fois des caméos et à la fois caméo, il faut expliquer, hein. Oui, c'est second rôle
et petit passage à la Hitchcock si vous voulez.
Voilà, et en même temps, ben par exemple la honte des Vernois ou excusez-moi, c'est l'auteur des Bidochons par exemple. Fait une planche où en fait il le massacre littéralement, il se retrouve aussi dans plein d'aventures. C'est assez rigolo, c'est bien amené. Moi, en tout cas, je me suis bien poilé. Et en tout cas, c'est un numéro pour les 30 ans qui est assez original, de Fluide. 180 pages, 89 stars internationales de la scène française de bande dessinée. Et c'est bien amené, donc ça vaut le coup. Donc, il y a le Spirou 3500 et le Fluide Glacial.
Spécial 30 ans.
Voilà, donc Spirou, j'en reparlerai tout à l'heure, d'ailleurs, dans une illustration musicale. En attendant, je pense qu'il est temps peut-être de se souvenir de tous ces magazines de bande dessinée, puisque c'est vrai que Fluide Glacial, l'un des deux créateurs de Fluide Glacial avec Gottlieb, c'est Alexis. Alexis est mort beaucoup trop tôt, il est mort en 1977, et depuis, il apparaît dans tous les ours de Fluide Glacial en tant que directeur de conscience. C'est un hommage posthume. Faut dire que des auteurs qui ont disparu de Spirou dans Fluide, on s'en souvient peut-être un peu mieux. Le dernier à être disparu, c'est Maester, et c'est vrai que ça avait filé un choc, mais malgré tout Fluide a réussi à se renouveler, en partie parce que il y avait la couleur qui a été amenée par un certain Albert Algou. En attendant, il faut respecter, je pense, avoir une minute de silence envers les magazines de bande dessinée qui ont disparu eux aussi. Rira bien qui rira le dernier. Hommage à Charlie, à Tintin, à Pilote, à Circus, à Corto, à Super As, et à Pif Gadget. Ah non, c'est vrai, ils sont comme le communisme, ils sont jamais réellement morts. Mais c'est plus les jeunes qui le lisent, malheureusement. J'ai dit que je foutais rien à cette émission, hein. Oui, reste Animeland, je sais. Excusez-moi.
Mais c'est toi qui l'as amené, c'est pas moi. Tu veux que j'en parle aussi?
Mais non, mais c'est juste parce que c'est vrai que je me suis vraiment un peu senti, mais je pouvais pas parler rapidement, je quoi pense, de ces magazines, surtout sans aucune préparation, puisque c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai carrément brodé. Je le reconnais. Et je le regrette parce que franchement, il y avait des choses à dire. Mais bon, ceci dit, dans Animeland, des dossiers qui sont intéressants. Une série sur la boxe qui va bientôt arriver en France. C'est normal, c'est un dossier spécial manga de sport. Ça tombe bien, Thomas, tu vas en parler tout à l'heure. Il y a aussi Gundam dont il sera question.
C'est pas du sport, ça.
Non, du sport, il est juste en face. Bonjour, ceci dit. Gundam, c'est la série futuriste de robots de combat qui a été produite par Bandai, entre autres pour vendre des jouets.
Ouais, des jouets.
On a aussi eu plein de trucs plutôt intéressants. Les mondes engloutis, un gros dossier sur cette série française, qui était chantée par les mini-stars. Donc il y a une histoire sur les mini-stars et ce qu'elles sont devenues. Il faut savoir que la musique, était signée par Vladimir Kosmas, qui m'a foutu un choc quand j'ai vu ça, parce que ça s'est rediffusé en ce moment en quotidienne sur France 4 à partir de 18h. Et moi je peux pas parce qu'à cette heure-là je suis encore en train de bosser. Ça s'est rediffusé la nuit. Après Albator, alors déjà que Albator, l'heure de diffusion varie entre minuit 40 et 2h10,
si vous tenez vraiment à regarder ce truc qui en fait, bon, c'est vrai, il y avait des trucs poétiques qui étaient rigolos, mais bon, ça, sans plus. Donc, Animeland du mois de mars, c'est le numéro 111 et il est 5,40€, voilà, avec un double poster, Les Ailes Grises, qui est réalisé par un certain AB qui a fait le character design. Lane, attends, excuse-moi.
Ah oui, oui, oui.
Pardon.
Azule Berda.
Non, c'est un japonais, un dessinateur japonais. Donc,
dessinateur de Lane, ouais.
Voilà, et de Nia Under Seven. Et Star Wars Clone Wars.
Ouais.
Série qui est diffusée en ce moment sur Canal, il me semble.
Et qui sort en DVD en ce moment aussi.
Voilà.
Par contre, je voudrais rectifier, c'est pas le numéro de mars, c'est le numéro de mai.
Encore. Deuxième. Oui, parce qu'au cas où vous les saurez pas, on les note, hein, quand même. On va terminer avec Synopsis, qui passe d'un rythme mensuel à un rythme bimestriel, excusez-moi, de sortie, avec un top 20 de télévision, savoir quelles sont les meilleures séries. Alors, du sport, je suis désolé, mais Nip Tuck n'arrive que sixième en premier. Qu'est-ce qui peut être en premier? C'est une série américaine.
Attends, parce que
les experts,
c'est pas égal, parce que bon, il y a des séries qui sont encore en cours de diffusion, qui sont pas terminées. Par rapport à des séries qui sont complètement terminées, c'est un petit peu difficile de faire un classement quand même.
Alors, bon, c'est un classement des séries en France.
Alors, les 4400 États-Unis arrivent 16e.
D'accord.
Six Feet Under 15e, MI5 Angleterre 14e. 24 heures chrono 13e, s'est pris une immense baffe à cause de la seconde saison. À cause de la seconde saison qu'ils n'ont pas trouvé absolument génial. Boulevard du Palais, série française très très bien d'ailleurs.
Ouais, dont 11e. On a parlé de Victor Garibet, l'acteur qui est mort en décembre dernier, qui fait partie justement de cette série.
Voilà. Camelot, 8e.
FBI
porté disparu, 9e, pardon, Camelot. FBI porté disparu, 6e. Nip Tuck, 6e. Acran, qui est une série française, c'est une mini-série, excusez-moi.
Mini-série, attention.
5e, The Shield, 4e, Dans la tête du tueur.
Hein, c'est pas une 3e, série, c'est un téléfilm.
C'est un téléfilm. State of Play, qui est une mini-série anglaise, qui est passée sur Festival. 2e, alors première.
C'est
Oz.
Oh, c'est quoi?
Non.
Non.
Et Soprano, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est donc Synopsis.
On reconnaît le cousin Buscemi.
Et c'est les journalistes qui font le classement. Là,
oui, tout à fait. C'est un excellent magazine sur
le scénario. Alors déjà, il n'y a pas Oz, alors c'est complètement incompréhensible.
Ouais.
Hein, déjà,
Thriller.
grosse erreur.
Et Thriller. Donc Synopsis, c'est un excellent magazine sur le scénario, à la fois de bande dessinée, de cinéma et de télévision. C'est très bien. En couverture, Last Days, de film de Gus Van Sant. Il y a aussi un excellent dossier sur George Lucas. Est-il un réalisateur indépendant?
Ouais.
Et là, franchement, j'ai appris énormément de choses dans ce numéro. Il est très 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 bien là-dessus. Et Stephen Shaw pour une interview assez surprenante. Vraiment bien, hein. C'est-à-dire comment il fait les scénarios, enfin plus exactement comment il tourne un film.
C'est rigolo parce que t'as dit que c'était un magazine sur le scénario et il y a un gros dossier sur la façon de fonctionner de Stephen Shaw à travers le storyboard.
Voilà, oui.
Ouais.
Sachant que dans le même groupe de presse, par la même équipe, il y a un magazine qui s'appelle Storyboard, là-dessus.
Ouais, parce qu'au départ, je crois que dans Synopsis, justement, il y avait des extraits de Storyboard dans les premiers numéros.
Ouais, tout à fait. Et en couverture, un dossier. Y a-t-il des films de festival? Vous savez, le genre de film qui fait « Elle est belle, ma dramatique, elle est belle, elle fait larmoyer, il est beau mon moyen-métrage, il est indiffusable en salle ». Bref, c'est dans le Synopsis numéro 36 de mai-juin 2005. Et
ça parle en turc et c'est sous-titré en grec.
Je crois que du sport va le vouloir. Ça tombe bien, c'est pour le Festival de Cannes. On continue dans les...
Ouais, on continue dans la revue de presse avec le numéro de première du mois de mai. Donc, on parlait tout à l'heure de Star Wars et du Festival de Cannes. Donc, un dossier sur Star Wars, justement, dans première, avec les 10 bonnes raisons de croire à l'épisode 3. Parce que bon, c'était pas quand même gagné d'avance. Retour sur Kingdom of Heaven dont je vous parlerai tout à l'heure, avec une interview de Ridley Scott et un portrait d'Eva Green, l'actrice, d'ailleurs la seule actrice sexe féminin dans le film d'ailleurs.
La fille de
Marlène Jobert.
Encore.
Oui, encore.
La pauvre.
Elle a quand même bien caché son nom.
Ah ouais, c'est vrai.
Et un dossier Cannes, donc avec les secrets de fabrication, les coûts, combien coûtent les limousines, etc. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a des nombreuses anecdotes, notamment le camouflé de Wong Kar-wai l'année dernière, qui avait livré ses pellicules, enfin ses bobines, alors qu'il y a beaucoup de journalistes qui étaient déjà installés dans la salle et les bobines n'étaient pas encore arrivées. Alors qu'ils reviennent un peu sur cette anicroche de l'année dernière. Une présentation du président Emir Kusturica. Voilà pourquoi il est un bon président. Et deux films événements, Last Days et Lemming, donc Last Days de Gus Van Sant, dont tu parlais tout à l'heure.
Et c'est marrant puisque c'est Lemming et Last Days qui sont dans Synopsis, voilà. En couvre.
Et le film donc de Dominic Moll, Lemming, avec une interview du réalisateur. Et c'est marrant parce que tu en parlais aussi, ça faisait le dossier de Synopsis, la couverture, y a-t-il des films de festival? Et bien là, il y a un dossier qui s'appelle Encore, ce sont les réalisateurs habitués de Cannes qui reviennent chaque année. Marronnier, donc il y a Lars von Trier, il y a Gus Van Sant, etc. Voilà, donc, ce sont toujours un peu les mêmes qui reviennent. On va peut-être enchaîner.
Oui, excuse-moi, j'étais en train de caler le morceau suivant. J'avais parlé du numéro 3500 de Spirou. Il y avait eu un numéro 3000, forcément, auparavant. C'était en octobre 95 et ils avaient encarté un CD où ils avaient fait participer toute l'équipe de Spirou. Même les dessinateurs avaient prêté leur voix pour chanter, trucs comme ça. Et j'ai la chanson du 3000.
Et pour notre chanson du 3000, et n'oubliez pas, je veux que ça déménage! 1, 2, 3, 4!
C'est râpé, faudra passer à la gouache blanche. Et une fois qu'on sera peint sur la planche,
dans notre cadre tout tracé, on a le teint de papier mâché.
On a la mine qui défaille, y'a rien à faire, il faut qu'on se taille.
Un rond de papier, c'est pas un métier. Gribouillé du premier.
Le taille au crayon, ou bien les plumes et le stylo. On se fait un sang, donc je te jure que c'est notre destin. C'est pas bon pour la santé, pas bon pour les intestins.
Et dans notre bulle, au-dessus de nos têtes, il y a des fautes et on a l'air bête. C'est sûr qu'il nous manque quelques gaz. On se dit qu'on a l'air naze.
Psst, bien fixé sur le papier, on nous tire le portrait. Ce n'est plus le moment de tricher, ouais. On sourit pour le cliché.
V'là qu'on vous entend rigoler ou avec passion soupirer. Amis lecteurs, vous nous donnez tout le plaisir d'exister.
Héros de papier, c'est le plus beau métier. Admiré du premier rang.
Bah oui, forcément. Dans l'équipe de Spirou, il fallait un Gaston Lagaffe pour activer les infrabasses. Ça le fait pas. Bon, eh bah, on va passer à un autre genre de catastrophe. Hein. Thomas, t'es pas prêt, c'est ça?
Si, si, c'est bon.
Ah bon, okay.
Alors, on va parler de Star Wars, puisque la Revanche des Sith sort mercredi prochain.
Non, excuse-moi, c'est parti dans le lyrisme et tout.
Ouais. Donc l'épisode 3 sort le mercredi prochain et c'est l'occasion de revenir sur sur le phénomène Star Wars dont vous abreuvent les magazines actuellement.
Est-ce que c'est vraiment utile? Bon, pardon.
Ouais. Quelques rumeurs démenties autour des... Parce qu'il y avait quelques rumeurs qui disaient oui, Lucas, il va continuer sa trilogie, les épisodes 7, 8 et 9, parce que il faut dire que à l'origine, il voulait faire
3 trilogies. Voilà. Il l'avait dit d'ailleurs plusieurs fois. Voilà. Et puis, non, il a toujours été question que de 2. Hein.
Voilà, et là, ouais, maintenant, il a, comme sa thèse de révisionnisme, enfin, son attitude révisionnisme qui concerne un peu tout en ce moment. Voilà, donc il n'y aura pas d'épisodes 7, 8 et 9, Lucas l'a confirmé, ainsi que son producteur Rick McCallum. Annoncé également la deuxième saison de Clone Wars, la série animée. Il y aura une deuxième saison qui va être
d'accord. Donc c'est celle qui est en cours de diff sur M6, on en a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Dus.
Oui, c'est une série qui au départ était un petit peu indépendante de l'histoire, enfin qui reprenait bien entendu toute la saga, tous les mythes, toutes les traditions, mais qui se voulait un petit peu décalée. Mais bon, pour faire coller en fait, et parce que bon aussi ça a été vachement vu, ça a été vachement demandé, on s'est dit ouais putain, on aimerait bien voir encore la suite et tout, c'est pas mal un animé, ça le fait bien. Alors ils ont décidé de retourner des épisodes et ces nouveaux épisodes qui ont été tournés en fait ont été faits pour coller avec les films qu'on va voir mercredi prochain. Mmh. C'est-à-dire que le dernier dessin animé de la série qu'on va voir, eh ben, s'il s'arrête juste quand va commencer le fameux film de mercredi.
Ouais. C'est très à la mode hein, en ce moment.
Et qu'est-ce qui se passe après le film ?
Commercialement parlant, ça le fait aussi.
Ouais, ouais.
Et qu'est-ce qui va se passer après le film ? Il y a une série live qui est en cours de tournage et tu vas faire le lien.
Tu me niques ma suite de chronique, espèce de foiré. Là. Donc justement, je voulais profiter de la présence du sport pour demander confirmation si lui aussi avait entendu ça. Donc projet de série live, série télé live avec des vrais acteurs.
Ouais, mais enfin bon, attention, on va rester prudent et poli.
Okay. Non, c'est en cours de tournage, c'est même en cours de diff hein, d'ailleurs.
Hein
de... Ouais.
Oh. Non.
Aux États-Unis, oui, c'est ce que j'ai lu sur Slashdot.
Excuse-moi, là, le fond sonore, c'est Evangelion, c'est pas Star Wars.
Oui, c'est parce que Lucas fait payer vraiment cher les droits.
D'accord. Dernière info, George Lucas, bon, on va arrêter de se moquer de lui. Enfin, on peut encore, parce que là, quand même, la dernière info est vraiment risible. Il prévoit de ressortir sur grand écran à partir de 2007 les 6 volets de la saga en 3D.
Oui.
Génial.
Oui, je crois qu'il s'agit d'une édition pour les DVD. Hein. C'est pas destiné à être diffusé en salle, c'est destiné à être vu à la maison.
D'accord.
Voilà.
C'est manière de dire. Bon, alors j'étais tellement bridé dans les 3 premiers films, même dans le tout premier, j'ai tenté vainement de rattraper le premier. C'était une catastrophe parce que il fallait tourner des plans, etc.
Oui, bon, enfin bon, on m'enlèvera pas l'idée, c'est quand même encore un plus sur moyen de vendre encore plus de jouets quand même.
Il y a eu combien d'éditions limitées en cassette VHS de la trilogie ?
De différentes ?
Ouais.
Il y en a eu 3, je crois. Non ? Plus ? Plus ?
Plus.
Ah, tu as bien lu Synopsis, alors qu'est-ce qu'ils disent dedans ?
Non, mais aux États-Unis, je crois qu'il y a eu pas loin de 5 éditions différentes VHS, tu vois. Avec à chaque fois des produits en plus, etc. Alors ne parlons pas des DVD.
Ah, avec des plans où il n'y avait pas la princesse Leia en bikini, c'est ça ?
Non,
ça
serait... le bikini ne rouvre que le concert en 2006.
On reste dans le cinéma, enfin si on peut appeler ça cinéma, avec le Festival de Cannes, 58e édition, qui est commencé depuis mercredi dernier et qui finira le 22 mai. Alors on a quelques films assez sympathiques, donc on a le nouveau David Cronenberg, History of Violence.
Yes. On attend toujours les Cronenberg avec impatience.
Faut dire qu'il avait, enfin, me concernant, il m'avait un petit peu déçu avec Spider. Bon, je sais pas ton avis du sport.
Je l'ai pas vu Spider, c'est le seul que j'ai pas vu, c'est le dernier avec machin là.
Ralph Fiennes.
Ouais.
J'ai reconnu le fond sonore, c'est les Aventuriers de l'Arche Perdue.
Oui, là c'est parce que c'était Lucas le producteur et tout, mais parce que tu m'as pas laissé enchaîner, parce qu'en fait j'avais un autre fond pour Cannes et toujours sur le même CD.
Ah mince. Bon, alors History of Violence de Cronenberg, c'est avec Viggo Mortensen, Maria Bello, je crois que qui est une actrice de la série Urgence. Hein.
Ouais, ouais, qu'on voit dans la série Urgence, voilà. On la voit dans d'autres séries aussi. Ouais. Hein.
Oula. Avec Ed Harris et William Hurt, et c'est l'histoire de, c'est le traumatisme d'une famille après un crime commis sous couvert d'autodéfense et sa surmédiatisation. Voilà. Le nouveau Xiao Xian, je sais pas si vous connaissez un peu ce réalisateur taïwanais. Il avait impressionné avec Millennium Mambo, Goodbye South Goodbye. Il avait fait pas mal de films qui étaient assez intéressants mais très contemplatifs. Et le, son nouveau nouvel opus s'appelle The Best of Our Times. C'est toujours avec Shu Qi, son actrice de Millennium Mambo. Mm-hmm. Voilà, qui avait fait une petite escapade chez les productions Besson avec le transporteur. Mais pardon. on a aussi le nouveau Jim Jarmusch, Broken Flowers, avec Bill Murray, Sharon Stone, Jessica Lange et Julie Delpy, c'est la petite française qui vit aux États-Unis. Un cinquantenaire fraîchement débarqué par sa petite amie apprend qu'il est l'heureux papa d'un grand garçon de 19 ans. Il va mener une enquête auprès de ses anciennes conquêtes pour trouver une explication à sa paternité. Voilà. Alors c'est, vous l'aurez compris, c'est assez différent de Ghost Dog et de Dead Man, mais bon, ça, concernant, sachant comment fonctionne Jim Jarmusch, je pense que ça peut augurer du meilleur. Le nouveau Jonito du sport.
Jonito,
réalisateur de The Mission,
Breaking News, etc.
Oh. Le nouvel opus s'appelle Election et ça, donc c'est avec Tony Lankerfai, donc c'est pas, c'est le, l'acteur de l'amant, hein, pas l'autre.
Oui, c'est pas l'autre.
Voilà. Et ça part de l'élection du nouveau parrain dans le milieu du crime organisé et il faut savoir que c'est le premier volet d'une saga constituée de deux volets indépendants. Voilà,
ah,
voilà.
Ça va être assez intéressant là.
Ouais. Ensuite, on va passer à un petit film. Je sais pas si Xavier, tu connais, si tu l'attends avec impatience. C'est Sin City. Oh.
L'enfoiré.
Co-réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller avec une participation exceptionnelle à la mise en scène de Quentin Tarantino.
Sinon, ouais. Enfin,
ouais, pour une petite scène en fait. Hein, ouais. C'est une très petite scène.
Non, c'est une histoire qu'il a tournée.
Non, c'est une très petite scène qui apparaît en fait. Hein. Il y a très peu de
non, mais lui, il a
touch, on va dire.
Oui, mais lui, il a filmé lui-même. C'était l'occasion pour lui de tester le tournage en numérique alors qu'il avait promis juré qu'il voulait pas y toucher.
Ah, c'est la scène avec George Arnett qu'il a tournée. C'est pas celle-là?
Je n'ai pas de détails.
Ah bon, d'accord. Bon, on va passer sur le casting, on a déjà parlé, puis on fera peut-être une spéciale, mais ça, on vous en reparlera.
On a le temps.
Ouais. Premier film de Tommy Lee Jones, alors qu'il avait toujours juré que la mise en scène ne l'intéressait pas, ça s'appelle Trois enterrements, et c'est l'histoire d'un fermier texan amené à remplir sa promesse d'enterrer un ami au Mexique. Voilà, donc Tommy Lee Jones avec un chapeau de cow-boy, ça devrait le faire, je pense. Le nouveau Lars von Trier, Manderley, avec Bryce Dallas Howard qui remplace au pied levé Nicole Kidman dans le rôle de Grace. Il y a aussi Isaac de Bancolé, Willem Dafoe, Danny Glover, Lauren Bacall et toujours Jean-Marc Barr. On a noté que John C. Reilly a quitté le film, l'acteur, parce que Lars von Trier avait tué un âne pour les besoins du film. C'est pas cool, donc l'autre il l'a pas apprécié, il est parti.
Et chouchoute.
Dans tout le monde sait, c'est le deuxième volet de la trilogie sur les fondements historiques et moraux des USA après Dogville. Et toujours le parti pris.
Et après, il va faire quoi? Il va faire un remake de Naissance d'une Nation?
Ouais,
ou...
peut-être. Je n'en sais rien. Toujours. On retrouve encore une scénographie unique et les abstractions des décors peints au sol avec des craies. Voilà. À signaler aussi dans la section Un certain regard le nouveau François Ozon, quand même, Le temps qui reste, avec Melville Poupeau, Valeria Bruni Tedeschi et Jeanne Moreau. Mademoiselle Jeanne. Et puis bon, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la revanche des sites qui est hors compétition et qui sera présentée, je sais pas si c'est pas aujourd'hui d'ailleurs. Je sais que c'est ce week-end en tout cas. Voilà. Ah oui, et sinon, bon, il est sorti déjà, mais il était présenté Kirikou et le fétiche égaré de Michel Oslo,
ouais,
la suite.
J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Il a fait monter les marches à une classe de gamins. C'est, à mon avis, manière de dire j'espère que mes sous-traitants vont hésiter avant de me tirer dessus, puisque je suis entouré de gamins. Savoir que pour le premier Kirikou, il a fait bosser des gens, des intervallistes, etc. Mais il les a fait bosser en leur disant « Ah, mais achetez votre matériel, etc. et vous serez payé sur les recettes, etc. » Mais ce n'était qu'une parole donnée. Et les gens n'ont rien eu. C'est-à-dire que dans Kirikou et la petite sorcière, c'est pour ça que moi je suis pas allé le voir et je ne suis pas le seul à avoir boycotté. C'est tout simplement que Michel Oslo, c'est un putain d'enculé d'enfoiré de première. Je ne vais pas dire qu'il fait partie
des forces du mal.
Mais pas loin, quoi.
D'accord.
C'est vraiment un gros abruti qui... Un esclavagiste, il n'y a pas d'autre terme. Ça tombe bien puisqu'on parle d'Afrique, mais bon. Enfin bon, vas-y.
Bon, mais c'est tout sur Cannes. On va rester dans le cinéma avec la avec, un petit film de Ridley Scott, si tu veux.
Ah ben oui, ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, le nouveau Ridley Scott s'appelle Kingdom of Heaven. Et il est sorti il y a une petite dizaine de jours. Voilà. Je sais pas si vous l'avez... Alors, je sais que Xavier, tu l'as pas vu. Du sport, tu l'as pas vu non plus.
Non. Non.
D'accord. Bon, de toute façon, on pouvait y aller. Hein. Ridley Scott... malgré les bouses qu'il a faites comme G.I. Jane ou des trucs comme ça, oui, c'est lui, et, ou Hannibal, bah, il avait fait avant des petits films qui s'appelaient Duelist, Alien et Blade Runner par exemple. Donc, et puis bon, il a fait aussi Gladiator qui avait relancé sa carrière récemment. Donc le synopsis, à peine veuf, sa femme s'est suicidée suite à la mort de leur fille. Balian, donc, qui est interprété par Orlando Bloom, un jeune forgeron, reçoit la visite d'un chevalier, Liam Neeson, en route pour Jérusalem. Celui-ci va lui balancer une tirade qui va changer son destin.
Balian, je suis ton père.
Oui, il faut dire que j'ai bien connu ta mère, et puis bon, je l'ai aimé à ma façon, et puis, mais je suis ton père, alors tu m'accompagnes, on va aller à Jérusalem, en Terre Sainte, mater du sarrasin. Bon.
Mais... Suce au robot!
Mais il devient aussitôt orphelin. Non, j'ai costaud, j'ai combattu pendant 2 jours avec une flèche plantée dans un testicule. Et non, Liam Neeson n'est pas immortel et il crève. Adoubé chevalier dans l'urgence, Balian part au beau milieu de la baston entre les chrétiens et les sarrasins. Sur place, il aura plein d'occasions de prouver sa valeur. Il va aussi rencontrer un prêtre non corrompu, l'un des rares d'ailleurs, David Thewlis, qui a interprété récemment le professeur Lupin d'Harry Potter 3 et puis plein d'autres rôles.
Ouais, mais qui sait cabotiner dans ce genre de rôle, mais qui sait également très bien jouer la comédie dans des films, on va dire, un peu plus sérieux, entre guillemets, quoi.
Comme Naked de Mike Lee, par exemple.
Ouais, par exemple, quoi. Mais enfin, pas que La Vague Anglaise, hein. Il l'a déjà joué dans d'autres registres complètement différents où vraiment il prouve que c'est un très bon acteur.
Il avait quand même cabotiné dans La Bouse Cœur de Dragon, quoi.
Ah oui, à fond, mais c'est très bien, c'est très bien.
Il va aussi rencontrer une princesse ténébreuse, donc Eva Green dont on parlait tout à l'heure, un roi Baudouin IV, lépreux et masqué, qui est incarné par Edward Norton, toujours impressionnant, un templier sanguinaire, Brendan Gleeson, et un chef des armées balafré qui est incarné par Jeremy Irons, toujours impeccable. Alors tout ça pour dire que l'intérêt n'est pas uniquement dans le casting, même s'il y a quand même une petite pléiade, mais une galerie de personnages ni noirs ni blancs. En fait, seuls les Templiers sont 100% négatifs, alors que l'ensemble des personnages naviguent un peu, suivant leur code de l'honneur plus ou moins prononcé, entre le bien et les intérêts personnels, etc. C'est un film assez... une peinture de personnages assez subtile, moi. Enfin, personnellement, moi, j'ai trouvé ça. Dans la vague post-Gladiator qu'avait réalisé d'ailleurs Ridley Scott, alors on monte d'un cran à chaque fois parce que ça a relancé le péplum, les films d'épopée, etc. Donc, on a eu 3. On rit pas, s'il vous plaît. Le navet infâme. On a eu Alexandre, le nanar boursouflé, mais qui avait quand même quelques scènes assez impressionnantes de bataille. Et donc, on a Kingdom of Heaven, désormais une épopée subtile sur l'honneur qui vaut quand même le détour. C'est un petit peu long, mais... il y a le film qui est divisé en 2 parties. Il y a la première partie où il arrive à Jérusalem, il découvre un peu les autochtones, il fait la rencontre de plein de personnages importants. Et la deuxième partie avec le siège de Jérusalem. Je vais m'arrêter là parce que bon, c'est vrai que c'est un secret pour personne. On sait comment le film finit parce que c'est inspiré d'un fait historique. Mais bon, pour ceux qui sont pas au courant, je vais pas m'apesantir dessus.
C'est sympa.
Voilà. Alors, on va éviter de faire un spoiler. Voilà. On notera quand même quelques petits liens avec Gladiator qui sont assez marquants. Les personnages, alors au début, on a un fils qui perd son père. Alors dans Gladiator, c'était... comment il s'appelait, Marc Aurel. Non, c'était... Non, je sais plus comment il s'appelait, le personnage incarné par Richard Harris. Non, c'était pas lui. Bon, je sais plus. Donc il était adoptif dans Gladiator et un père qu'il a à peine eu le temps de connaître et le temps d'être adoubé dans Kingdom of Heaven. Des débuts sur des plans crépusculaires, donc c'est filmé de nuit, plus souvent de la neige qui tombe, un traitement sombre de l'image. Les deux films commencent de la même façon. Ensuite, on passe au désert. Donc dans Gladiator, il était devenu donc gladiateur dans le désert, il va aller s'entraîner au Maroc. Et dans Kingdom of Heaven, il arrive à Jérusalem, encerclé par la sécheresse. Tout ça en passant par les champs de blé courbés par le vent. On dirait que c'est la nouvelle marotte du réalisateur. Hein.
Oui, j'ai remarqué qu'il faisait souvent ça. D'ailleurs.
Ouais. Oh, allez, bon, c'est
dans Alien, d'ailleurs, non, il n'y avait pas de champ de blé.
Voilà. Et jusqu'à la bon voilà, voilà la fin, on va éviter d'en parler. Et ouais, un petit lien aussi avec Hannibal, la bouse dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a pas le général carthaginois, hein, le cannibale, hein, avec un acteur non crédité qui était Gary Oldman, qui interprétait déjà un personnage défiguré. Ben Edward Norton incarne le même personnage, puisqu'à un moment donné il y a Baudouin qui enlève son masque et le visage est torturé par la lèpre. Voilà, donc il aime bien les acteurs non crédités qui sont un peu défigurés. Il prend un malin plaisir à les torturer à l'écran. Voilà, donc tout ça pour dire que Kingdom of Heaven est un film à voir, qui traite bien du malaise qu'il y a à Jérusalem, justement. En plus, il y a un petit récapitulatif à la fin sur fond noir avec des écrits pour dire oui, il y a encore une résonance aujourd'hui, etc. D'ailleurs, Ridley Scott voulait commencer le film par un plan d'un hélicoptère qui survolerait Jérusalem avec des soldats et une équipe de télévision qui rendrait compte du conflit actuel. Et après, ça aurait été un long flashback pendant tout le film sur les temps des croisades. Il a dit bon, finalement, c'est un peu lourd, on va abandonner ça.
On m'avait dit que d'ailleurs, bizarrement, les Juifs ne sont pas très présents dans le film, ils sont même carrément absents.
Il me semble, ouais. Ouais.
Bizarrement, donc.
Par contre,
il avait peur aussi, c'est vrai que la question est assez tendue dans tout ce qui est Europe, ce côté-là.
Et ils sont pas nommés, mais il dit quand même qu'il y a les deux rois qui se livrent bataille, qui sont le roi Saladin, le roi des Sarrasins, et le roi Baudouin, qui se livrent une bataille, mais ils sont d'un côté comme de l'autre extrêmement sages, et ils veulent à tout prix préserver la vie des peuples qui cohabitent à Jérusalem, mais qui sont les représentants des trois religions monothéistes. Donc ça, d'accord, c'est quand même dit dans le film, et voilà, c'est de ce point de vue que le film est extrêmement intéressant. Voilà, Kingdom of Heaven est sorti il y a 10 jours, vous pouvez toujours aller le voir.
12h48 sur la poubelle des radios. Avant de passer aux bandes dessinées, moi je propose un petit break musical, un clin d'œil à nos amis des Guignols, qui en ce moment font un running guy assez rigolo,
ouais.
Avec un morceau extrait de la bande son de Chat Noir Chat Blanc, donc d'Emir Kusturica. Il est 12h48 sur FMR, et on saute directement en Europe centrale avec les Tziganes comme ça qui sursaute au moindre coup de vent. Et Monsieur Kusturica, comment vous pensez du festival ?
Seriously damage your health. I pay you more than ever.
On dira pas de quel film c'est. Si vous avez suivi les guignols hier, vous avez un premier indice qui est passé à l'écran. Voilà. Donc du film d'Emir Kusturica.
Je veux pas mentionner le film.
Non, 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 c'est plus drôle d'aller chercher parce qu'au fur et à mesure, il donne de plus en plus de détails.
D'accord, ben ça vous encouragera à aller voir la filmo de Kusturica. Tiens, bien fait.
Hey, hop, au boulot. Vas-y, donc, ben pour une fois, j'avais dit que j'allais pas trop bosser aujourd'hui, ben les BD, hein.
Voilà, alors les bandes dessinées, pour une fois, c'est moi qui m'y colle. Ah, au fait, je t'ai ramené donc Superman, Identité Secrète, hein. Voilà.
Je sens le gag.
Attends, c'est l'histoire d'un jeune. Vous avez déjà fait la croix.
Ouais, on l'a déjà faite.
Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est le fils de monsieur et madame Kent et qui ont eu la bonne. Non, ils ont pas fait ça quand même. Si, si, ils ont eu la bonne idée de l'appeler Clark. Et alors, pour chaque anniversaire, on lui offre la panoplie du mec de Krypton. Adolescent, on lui présente des Lana Lang, des Lois Lane. Ses copains, ils ont vachement de bonnes blagues comme ça. Jusqu'au jour où l'acier de se faire humilier encore une fois par ses camarades et il est parti
dormir.
Bon,
alors je t'explique du sport. En fait, je vais passer un bouquin.
Voilà, il est parti dormir
sur les 18 ressorts.
Il se réveille un peu
sur les 18 ressorts humoristiques. Les 18 principes humoristiques, et il est tombé sur le chapitre, le comique de répétition. Donc c'est pour ça que c'est la troisième fois qu'on fait la chronique sur l'identité secrète de Superman. Je crois que t'as beaucoup d'actu, toi, sur le sport tout à l'heure.
Un petit peu,
ouais. Quand même,
ouais, le tout venant, quoi.
Le tout venant, oui.
Feu grave.
Thomas, on peut abréger, passer à de la vraie nouveauté, s'il te plaît.
Voilà, c'est tout.
Bon, d'accord, ok.
Alors. On va passer au manga maintenant, hein. On était
Impec, synchro.
Synchro, voilà. Ouais.
On parlait de manga de sport tout à l'heure.
Oui, oui, tout à fait. Go and Go.
Voilà, on va revenir sur Go and Go, le tome 6, manga de baseball. Ouais, on en parle, c'est le marronnier. Voilà. Donc le scénar toujours aussi pauvre, hein. Donc c'est un manga de Takao Koyano. Et donc le match entre Orio et Terio s'est soldé par la défaite de l'équipe de Nita. Donc ça parle de baseball. Car les batteurs adverses ont envoyé tous ses lancers. Faut savoir que Nita, son but dans la vie, c'est de lancer des balles qui sont irrattrapables. Il met pas d'effet parce qu'il sait pas ce que c'est. Et il lance la balle le plus vite possible. Désormais, le héros, donc il est. Ah oui, au fait, il est obsédé par deux passions dans la vie, le baseball et la masturbation, va apprendre à lancer des balles à effet. C'est fantastique, il va apprendre à lancer des balles à effet dans ce nouveau tome.
Faudra qu'il arrête de s'astiquer, à mon avis, la batte, hein, mais bon.
Oui.
Pardon.
Alors, les personnages, je les trouve absolument chiants et complètement vides. Et moi, je trouve que le dessin ne rattrape pas trop la pauvreté du scénario de ce manga de sport, parce que bon, il faut quand même avouer aussi que le baseball, c'est quand même un sport assez. On va dire underground ici quand même, hein, on connaît pas trop les règles.
Non, en France on connaît pas, hein, c'est vrai, mais c'est vrai qu'aux États-Unis c'est du même niveau que le basket ou le football américain, et au Japon c'est même niveau que le football tout court.
Voilà. Donc c'est extrêmement schématique, extrêmement linéaire, et puis je trouve que le graphisme ça apporte rien de plus, donc moi j'aime pas trop en tout cas.
Voilà.
On va passer à Gonta, manga de boxe. Donc c'est le troisième tome. Le scénario est de Taro Nami et les dessins de Kazutoshi Morita. Oh, je me suis bien ébrouillé, tiens, pour une fois, pour les noms japonais.
T'aurais pas eu des clients japonais cette semaine?
L'histoire raconte les aventures de Kinya, un bagarreur dans l'âme et devenu roi de la baston après s'être fighté avec les plus redoutables de ses congénères dans la rue. Les Street Fighter, donc. Et commencé à déprimer en l'absence de rivaux. Ça nous donne d'ailleurs l'occasion de voir des moments extrêmement drôles dessinés. C'est super rigolo. On voit les personnages en SD, donc SD,
en super déformé, voilà, en c'est tout petit, en caricature, voilà.
Voilà. Ses deux potes lui parlent d'un combattant super fort qu'il ne connaît pas pour essayer de lui redonner un peu de morale. Donc en fait, ce combattant, c'est un boxeur. Donc Kinya part dans sa salle de boxe lui foutre sa raclée, mais il tombe sur un coach absolument canon qui a des décolletés vertigineux et un petit boxeur.
Une.
Ouais. Et un petit boxeur de 11 ans qui est un petit peu un clone de Krillin et qui lui fout sa tôle. Alors il va comprendre que la boxe finalement c'est pas le combat de rue et que c'est extrêmement réglementé et extrêmement dur. Il va s'inscrire à un tournoi de boxe donc pour affronter tous les merveilleux combattants dont il entend parler à longueur de journée en s'entraînant. Il va être coaché par un boxeur taillé comme une armoire à glace que Kinya appelle Grand Bouddha, parce que il faut savoir que quand il est arrivé dans la salle de boxe, il a vu ce gros baraqué sur le ring et puis l'autre il dit ouais tu vas m'affronter. Mais Kinya il connaissait pas les us et coutumes de la boxe et il a fait comme ce qu'il aurait fait dans la rue. Il a marché sur le pied, il a foutu un uppercut. L'autre, il n'a pas pu bouger et voilà, il a été étalé de tout son long. On commence à entrer dans une série de combats dans le, à partir du, de ce tome 3 où le graphisme nerveux du mangaka restitue toute la férocité des combats. Moi je trouve le graphisme vraiment assez intéressant, ça rend bien compte de la brutalité, la soudaineté des frappes, etc.
Du noble art quoi.
Ouais voilà. Et au final ça donne un manga à l'humour ravageur, une galerie de personnages allant du plus drôle au plus charismatique, etc. C'est, moi je suis assez fan de cette série finalement. Voilà, donc ça contrebalance... Voilà, go and go. On va passer à Seven of Seven maintenant.
Alors là, on va passer dans une suite de manga pour ados. Tricard.
Ouais, même si Seven of Seven, j'ai pas trop compris pourquoi il avait mis dans la collection Punch Shonen, alors que c'est plus adressé aux petites filles, à mon avis. Hein,
bon. Non, c'est Shonen, je confirme.
D'accord.
J'ai fait les recherches.
Ouais. Donc le scénario est de Imagawa Yasuhiro et les dessins de Kunihiro. C'est l'histoire de Nana, qui est une petite fille très mignonne, un peu cancre à l'école parce qu'elle ne révise jamais, et amoureuse en secret de Kamishika, un petit garçon assez adorable. Un jour, le père de Nana rentre de voyage à l'étranger avec un cadeau, un petit bijou en forme de cœur en cristal, avec une recommandation de la vendeuse, c'est comme pour les Gremlins, que la lumière du jour ne se reflète pas dans le cristal.
Jamais... Non, c'est la lumière de la lune. T'as mal lu.
C'est la lumière du jour, mais c'est hein, t'es sûr?
Oui.
Ah, tiens, je me suis fait ça en direct. Il va falloir que je vérifie.
Et paf!
Voilà. Mais comme les petites filles n'écoutent rien, pof! Oh, c'est joli ces cristals, la lumière de la lune. Ah! Mince, en se réveillant le lendemain matin, la petite nana se transforme en 7 nanas.
Donc, c'est-à-dire 7 fois plus d'occasion de voir de petites culottes, évidemment. Voilà. Donc, ceux qui n'auraient pas compris.
Donc, on a Nana Pon, la sexy. Nana Rin, celle qui pleure tout le temps. Nana P sera la déterminée. Nana Sama, l'intellectuelle du groupe.
Voilà.
Nana Ko, l'insouciante. Et Nana Chi, la peste. Plus alors, donc, la nana originale.
Donc, ce que vous avez entendu, c'est un truc typiquement japonais. Nana veut dire 7.
7, ouais.
Voilà, c'est un chiffre. Donc, c'est à la fois ça veut dire une fille et à la fois ça veut dire 7. Mais en plus, ce que vous avez entendu, Chi, Sana, etc. Ouais. C'est la manière dont on s'adresse à une autre personne. On rajoute un suffixe voilà, au prénom pour dire comment on s'adresse à cette personne. On met pas un suffixe soi-même, on met un suffixe à une autre personne pour dire quelle est la marque de respect qu'on lui attribue.
Voilà. Bon, alors je vous laisse imaginer les quiproquos à l'école, face à son amoureux, face au prof, etc. Ça donne des situations assez rigolotes. Donc, finalement, c'est un manga très drôle dont l'intérêt réside dans les caractères complémentaires des 7 petites nanas finalement. Elles sont souvent représentées donc en SD, comme on disait tout à l'heure, en petite caricature, toute mignonne. Et c'est ça un peu, enfin, à mon avis, qui fait le charme de la série. Toi, je sais que tu as lu le manga. Qu'est-ce que tu as un petit truc à
bon, c'est vrai que ça va pas très loin, mais il y a plein d'idées assez excellentes. Mais bon, voilà quoi. Quand elle se décide à 7 de se battre pour le même garçon,
ouais.
Évidemment, on imagine que ça y va pas par 4 chemins et puis voilà. Bon, ça reste un truc quand même pour les ados et de ce côté-là, c'est vrai que on voit souvent des tenues, même si elle veut pas le faire, etc. Enfin bon. C'est assez rigolo. Pour ça, c'est très drôle. Ça va pas très loin. Hein. C'est quand même pour les 14 ans d'âge. Mais enfin, là-bas, en France, je n'en sais rien. Hein. Ce qui paraît, on est encore moins que tard qu'eux. Enfin, on est plus coincé dans le terme de la culture. Mais en tout cas,
un détail rigolo dans Seven of Seven, c'est que la taille de la poitrine de la petite nana varie suivant le caractère.
Les pages, hein. Oui. Ouais. C'est une fille qui dessine.
Ouais.
C'est ça qui est surprenant, c'est une fille qui dessine et elle le dit elle-même dans une interview qu'elle aime bien justement faire des trucs sexy qui affolent les garçons. Enfin, ça a l'air d'être une grosse allumeuse. Quoi.
Ouais, peut-être qu'elle a été fille unique, elle a souffert un petit peu de sa solitude, on ne sait pas. Bon, dernier manga qu'on a sur la table là, c'est Monsieur est servi.
Alors là, c'est un autre fantasme japonais, ouais. C'est très particulier.
Donc, à la mort de son grand-père, Taro arrive dans le château de ce dernier parce que voilà, l'autre il a appelé « Ah, ce serait bien que tu viennes et tout ». Mais, surprise, c'est une armée de soubrettes qui est là pour l'accueillir. Elles sont en fait au service de sa famille pour satisfaire le moindre de ses désirs, que ce soit lui tenir ses baguettes au moment des repas, l'habiller et peut-être même plus si celui-ci en exprime l'envie. Sauf que c'est un petit gamin donc qui avait jamais embrassé de fille au début de la série. Et puis, voilà.
Et qui se retrouve face à des filles avec des obus monstrueux.
Voilà.
Il n'y a pas d'autre terme.
Donc l'intérêt, c'est de voir plein de jolies filles s'agiter dans tous les sens, au service d'un jeune garçon qui ne comprend pas toujours ce qui lui arrive, d'autant qu'il est très attiré par Marielle, la soubrette en chef, mais il va vachement hésiter à faire le premier pas. Si un truc rigolo, c'est que toi, Xavier, tu m'avais dit « Ouais, vas-y, je l'ai vu en diagonale ». Tu m'étonnes.
Bon, alors
en fait, tu t'es arrêté là où il y avait des filles dénudées, hein. C'est ça. À diagonale, hop. Ah non, tiens.
Bon. Le gros fantasme quand même des japonais, des garçons japonais, et ça Katsura l'a très très bien exprimé dans Video Girl et dans Isus, c'est d'être seul dans son appart, c'est tout, c'est d'avoir un appart pour soi tout seul, c'est ouais. Et là c'est carrément un château, etc., et avec des filles en soubrette dans tous les sens, et du sport va commencer à avoir la gueule là avant de faire sonner sa rubrique, ça va être dur.
Ouais, non, je crois pas non.
Bah donc, c'est tout, voilà. Manga Punch Comics, voilà, il y a aussi Nos Bras dont on n'a pas parlé, mais on en a parlé plein d'émissions.
Plein de fois. Donc du sport pour la partie télévision.
Oui.
Oui.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Voilà.
Allez, quelques petites séries, pas de nouveautés. Non, peut-être des choses qui étaient passées inaperçues et sur lesquelles je peux revenir dessus. Sinon, du côté des caméos, c'est-à-dire des guest starring dans les séries, il y a de la chose intéressante. Cet après-midi sur TF1 dans la série North Shore, Hôtel du Pacifique. L'hôtel qui est tenu par James Remar. Alors James Remar, excellent, on peut pas s'en passer. De toute façon, il avait déjà fait une autre série où il était acteur principal de cette série. Il jouait le rôle d'un patron d'une agence de détectives privée. Et en plus, bon, c'était un petit peu parodique parce que déjà il s'appelait Frank Sisko. Bon, un peu parodique et tout. Il y avait James Belushi avec lui d'ailleurs, qui jouait dans cette série, qui a pas duré longtemps. Elle a pas duré même pas une saison, je crois. Enfin bon, elle a disparu assez vite, hein. Pourtant elle était pas une intéressante, mais enfin bon, on s'en rend... Il n'y avait pas quelque chose de particulier dans cette série, c'est ce qui l'a fait certainement disparaître. Alors, pour se faire un peu de pépette et se préparer ses vieux jours, parce qu'il doit travailler aussi le jour de la Pentecôte, James Remar, bah, il joue dans North Shore, une série qui a fait qu'une saison et des poussières, malgré la présence de nombreuses caméos dans cette série. Dès le premier numéro, il va y avoir, ça je vous l'avais annoncé quand lors du démarrage de cette série, il va y avoir Shannen Doherty, mais dans l'épisode de cet après-midi, ça risque d'être rigolo. Car il y a comme invité Dennis Rodman, qui joue son propre rôle. Hein, ouais. Le rôle de Dennis Rodman, c'est un retraité du basket, mec complètement déjanté, qui pète les ponts, qui boit, qui fume, qui fait plein d'autres choses, enfin, qui sont pas très très permises. Il faut préciser qu'il joue au basket, donc black, donc super tatoué. Enfin bon, c'était, ouais. Il était surnommé The Worm sur le terrain, hein, parce que c'était un super défenseur qui lâchait jamais son adversaire.
Ouais. Ah ouais.
Voilà. Donc voilà. Non, il jouait dans, il a joué un petit peu avec avec
Jordan.
Avec Michael Jordan, bien sûr. Il a joué une saison ou deux. Enfin bon, ça n'a pas trop marché, ouais. Faut dire. Hein,
mais dans quels épisodes
C'est un petit peu l'équivalent de Scottie Pippen, en fait. Ouais. Enfin, Scottie Pippen, lui, il n'ouvrait pas sa gueule devant Michael Jordan. C'est ça le truc.
Par contre, il a Dennis Rodman a joué dans Double Team de Soyark. Et oui.
Ah oui, ah, oui, ouais. Excellent, excellent, très bon en plus. Hein,
c'est un chier.
Oui, c'est magnifique, magnifique.
Quelle bouse.
Et ce n'est pas le seul invité, hein, dans North Shore Hotel du Pacifique cet après-midi. Il y a également Melissa Joan Hart, qui elle, en fait, c'est l'invité principal. Hein. Alors, qui est Melissa Joan Hart? Ah, c'est une actrice américaine. Mais si je vous dis Sabrina, l'apprentie sorcière, vous allez dire, oui, bien
c'est
sûr.
La petite blonde?
C'est elle, la petite blonde, voilà, ouais. Qui joue son propre rôle, donc, qui est l'invité de James Remar dans Hôtel de Pacifique, c'est cet après-midi sur TF1, 16h10. Sinon, toujours sur TF1, ce soir, New York Section Criminelle, deux épisodes inédits de la saison 4. Pas un, deux carrément. C'est carrément excellent, c'est génial. Une petite caméo sympathique, enfin non, c'est pas tellement caméo là, c'est plutôt dans le temps on me connaissait pas, alors pour vous faire je faisais pratiquement n'importe quoi, où j'étais bien content là il était quand même bien content d'apparaître dans cette série 356 fois 50 minutes diffusée chaque semaine, un personnage qui a été interprété par deux actrices c'est qui? Barbara Belguedes, puis ensuite Donna Reed, hein, je te donne un indice, elle s'appelait Ellie. Et son nom de famille était Ewing, bien sûr.
J'en étais pas
Ellie,
loin.
Ellie, oui, Barbara Belguedes, voyons. Alors. Marie, on la connaît moins, mais enfin, elle a, parce qu'il a fallu que l'autre s'arrête. Enfin bon, en fait, décès. Et on retrouve on est déjà à la saison 8 ou 9. Enfin bon, c'est déjà bien. Il y a la moitié des personnages que vous connaissez plus si vous avez zappé depuis les 3-4 saisons les plus connues, hein. Avec les nouveaux personnages, Bobby est déjà mort et ressuscité. Mais par contre, on voit apparaître un certain Brad. Il est là, il sera là dans les épisodes de ce soir. Brad Pitt dans Dallas. Et oui, on a vu un. Absolument. Ouais. Vous allez voir, jeune, imberbe, magnifique. Dallas, donc c'est ce soir sur Canal Jimmy à partir de 20h45. Trois épisodes diffusés à la suite. des petites choses, alors là, qui passent assez inaperçues, parce que bon, c'est diffusé sur des programmes du câble ou du satellite, mais enfin bon, on va pas forcément y chercher, vu les horaires un peu tardifs, sur BBC Prime. Faut savoir que tous les lundis, c'est soirée policière, on va dire, hein, avec des, soit des rediffs, soit des diffusions qui sont assez proches de la, de la première diffusion sur la BBC, hein, que ce soit One, Two ou les autres. Après Spooks, qui passe tous les soirs, Spooks c'est MI5 en français, dont ils rediffusent la première saison tous les lundis à 20h30, je crois. Il y a une série qui s'appelle Murder in Mind. Bon, bah c'est tout en anglais, hein, c'est BBC, hein, bien sûr, d'accord. Et par contre, c'est une série qui est plutôt une série de petites histoires, hein, des scénarios complètement originaux les uns par rapport aux autres, des histoires qui n'ont rien à voir, les personnages change, les acteurs changent à chaque fois, mais c'est à l'intérieur d'une série qui s'appelle Murder in Mind, dont le générique est vraiment très très réussi, comme le sont généralement les génériques anglais. On voit une paire de mains se laver dans le sang et c'est vu une prise sous-marine sous l'eau, assez agréable quand même, sympathique, ça met tout de suite dans l'ambiance, hein, avec des sujets complètement différents. C'est-à-dire que la semaine dernière, enfin cette semaine lundi, c'était un truc un petit peu bizarre, avec des agents secrets qui rappelaient un petit peu à MI5, alors que il y avait un précédent épisode qui s'appelait Stalkers, qui était vraiment très 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 réussi, avec un Neil Morrissey mais complètement, mais alors glaçant vraiment. En 50 minutes, c'est pas mal, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Bon, c'est sur BBC, il faut connaître un petit peu l'anglais, ça c'est clair, hein. Une autre série, et là c'est plutôt de la déconne à fond les manettes, parce que ça passe sur comédie, mais enfin bon, c'est un petit peu un ovni, hein, ce truc-là. Comme ça, c'est des segments qui durent un quart d'heure, 20 minutes, ça s'appelle Six Thumbs Up. Alors c'est assez dur à dire, hein, c'est-à-dire 6 pouces en haut. Et en fait, c'est une série légèrement animée, en fait, les animateurs ont dessiné les doigts de la main qu'on voit apparaître et qui figurent les corps. Et incrusté sur les doigts, eh bien, on a mis les yeux et les bouches de vrais personnages, hein, de personnes réelles.
Un énorme succès aux États-Unis.
Et alors, bon, bah, ça déconne à fond les manettes. C'est surtout dans le domaine de la parodie. Alors, bien sûr, faut connaître sa culture américaine, sa culture générale, enfin plutôt pop culture générale, assez à fond les manettes, hein, avec les citations à Star Trek, machin, un truc à bidule, avec bien entendu le gotha de tout Hollywood qu'il faut connaître par cœur, y compris les superstars américaines que personne ne connaît en Europe. Et ça donne un truc vraiment très très intéressant. C'est parce que c'est assez rapide, ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu dans la même veine que Trey Parker, Matt Stone, South Park, enfin un petit peu le même esprit comme ça, mais bon, ça se laisse bien regarder, hein, de toute façon. Ça peut apparaître un peu chiant au bout d'un moment, hein, c'est-à-dire on voit toujours les mêmes doigts, les machins, donc ils sont déguisés, les décors sont animés, enfin c'est des dessins, ça change assez régulièrement, c'est pas mal, mais enfin bon, ça se laisse regarder quand même parce que le format est assez court, c'est ça qui est intéressant.
Et je crois que Steve Odekerk avait fait, c'est pas lui qui a fait ce dont tu parles,
hein, Odekerk.
Ouais, Odekerk, voilà.
Et j'ai vu dans une autre série que mon fils regarde.
Oui. Ben il a fait la guerre des pouces, des trucs comme ça.
C'est dans le même c'est dans le même truc. Ben là, la guerre des pouces était un spécial en fait.
Et il a fait aussi Kung Po, la parodie de film de des Shaw Brothers.
Alors là c'est plutôt pour adultes, hein, parce que bon, il y a certaines allusions, on va dire, qui sont assez explicites. Ça passe sur comédie tous les mercredis, enfin le mercredi surtout à 21h55. Ça c'est pour les séries. Il y a des documentaires à venir de tout et n'importe quoi carrément au niveau documentaire. Un documentaire qui peut être vachement rigolo parce que bon, bah ils sont allés jeter un coup d'œil dans ce qui se passait lors des concours d'Eurovision. Ça passera sur Planète mercredi prochain à 20h45. Ça s'appelle Les coulisses de l'Eurovision. Petit documentaire d'Éric Guéret. Lui, il allait promener sa caméra, mais là où normalement on va pas, c'est-à-dire pas dans les vestiaires des filles ou des garçons pour voir comment ils font leur vocalise avant de monter sur scène, mais plutôt au niveau des commissaires, au niveau des juges, au niveau des organisateurs, et comment ça se passe, et combien ça coûte, et le pognon, et tout ça. Ben voilà, ça peut être intéressant. Dans un autre domaine, plus paparazzi, on va dire. C'est un documentaire qui est consacré justement aux paparazzi, mais là, c'est pas aller traquer Laetitia et Johnny sur leur yacht au large de Saint-Tropez. Non, là, c'est dans le ventre de la bête carrément à Hollywood. Comment savoir comment George Clooney enfourne sa moto? Comment savoir si Jennifer Connelly a fréquenté tel restaurant? Eh bien, c'est
dans Trax à Hollywood. Trax à Hollywood sur 13e rue, c'est ce soir à 19h50. Et sinon, toujours cette excellente série qui s'appelle Autopsy, hein, une série documentaire en 9 épisodes de 50 minutes. C'est sur Planète Choc. Alors ce soir à 22h40, le numéro 6, et à 1h35, le numéro 2 de la série qui en comporte 9. Et alors, quelques films pour la bonne bouche, et moi, c'est pas du Festival de Cannes, mais ça y ressemble quand même. Avec un excellent Ringolam de 2001 qui passe demain sur TF1 à 22h40, le Répliquant avec Jean-Claude Van Damme.
Ouais, bon,
Jean-Claude Van Damme qui se tape sur la gueule, ça fait plaisir à voir. C'est génial. Et avec le non moins excellent Michael Rooker, faut dire, hein, ce qui est quand même, il faut regarder, c'est dommage, c'est sur TF1, mais il faut le regarder en version originale, c'est pas mal, ça pète bien quand
même.
Oui,
bon.
En face, il y a du lourd, il y a du très lourd, et culturellement parlant, on pourra le préférer, c'est clair, hein, c'est un Jacques Tourneur de 57 sur France 3 qui s'appelle Rendez-vous avec la peur, hein, film fantastique par excellence, c'est du britannique. Tourneur, il a eu plusieurs
carrières,
il s'est tiré aux États-Unis pendant la guerre parce que bon, il voulait pas trop rester, et après la guerre, on lui a fait comprendre que c'était un petit peu un has-been, alors qu'il avait créé un petit peu certains genres, hein, genre la féline et tout ça. Et puis bon, il a émigré en Grande-Bretagne où il a réalisé plusieurs films quand même, pas tous dans le même domaine d'ailleurs. Là, ça, c'est avec Dan Andrews et Peggy Cummins, c'est du gros, hein. Là, y a pas de problème, ça se laisse regarder. Ensuite, une petite série de films sur RTL9 en deuxième partie de soirée. Avec demain soir, en concurrence donc avec Répliquant et Rendez-vous avec la peur, nous avons la 7e prophétie de Carl Schultz de 88 avec Demi Moore, Michael Biehn et Jürgen Prochnow. C'est l'histoire de Demi Moore qui est enceinte, et puis du fait qu'elle est enceinte, elle attire les forces du mal.
Merde.
Mais alors avec
c'est
Michael
Biehn, les forces du mal.
Avec Michael Biehn dans le coin. Il va leur péter la gueule, mais peut-être que Jürgen Prochnow, il va dire non, pas d'accord.
J'aime beaucoup les transitions quand même du sport, parce que parler des paparazzi et ensuite de Demi Moore enceinte qui attire les forces du mal, très fort. Alors là, bravo. Écoute,
ça, c'est demain. C'est demain à 22h25 sur RTL9. Et lundi, alors là, attention, là, ça tue quand même. J'ai carrément le pitch de la semaine.
Ouh.
De la semaine, carrément, à 22h30 lundi sur RTL9. L'étoile du mal, un Toby Hooper de 85. Et lui également, aux États-Unis, on savait même plus qui c'était. C'était un mec, t'as fait Massacre à tronçonneuse, casse-toi, t'es un enculé. Il est allé en Angleterre, comme Jack Tourneur, et il a tourné L'Étoile du Mal avec Steve Railsback. Alors là, très bon, hein, qu'on avait vu dans Visitor, la série, hein, avec John Corbett. Steve Railsback, il joue le rôle du méchant qu'il poursuit et tout. Alors là, il est carrément excellent, très très bon. On l'a vu dans un direct tout vidéo inspiré de la vie de Ed Gein, me semble-t-il, un tueur en série connu, hein, qui a inspiré Psycho.
Ouais.
Dans ce film également, faut les Anglais de service. Alors on vous donne Peter First, le frère de Colin First. Et qui est un familier des séries anglaises. Enfin bon, l'allemand acteur anglais. Hein, de toute façon, ils sont plusieurs dans la famille First. Il n'y a pas que Colin et Peter, il y en a encore un autre dont je me rappelle jamais le prénom, mais enfin bon, ça reviendra. Et également Frank Finlay. Et le pitch, c'est quand même trop bon, L'Étoile du Mal. Une navette spatiale qui approche de la comète de Halley ramène une tribu de vampires de l'espace qui transforme les habitants de Londres en zombies.
Ouais.
Enfin moi, ce que je me souviens surtout, ce que je me souviens surtout, c'est de la couleur des effets spéciaux, tout en effet d'optique, avec l'espèce d'effet là de pinceau lumineux. De portes qui s'ouvrent, c'est absolument fabuleux de ce côté-là. Il y a vraiment une plastique, un truc qu'on retrouve pas d'ailleurs dans les effets spéciaux numériques actuellement. C'est bien dommage.
Ah bah tu verras, tu vas. Ouais. C'est lundi.
Je le connais, je le connais, je le connais.
22h30. Sinon, un film qui est une bouse et qui aurait dû être un excellent film, c'est Black Mask 2.
Ah oui, là je confirme. C'est le nanar.
Hein, quand même. Passe sur TF6 mercredi, jeudi prochain à 20h50.
Ah, quelle bouse.
Sur TF6.
C'est Soyard qui l'a fait.
Ouais, c'est Soyard qui l'a fait.
Enfin,
il faut dire que il s'est fait bouffer parce que Choi Hark est en fait dans sa période un petit peu hollywoodienne. Hein. Il était installé là-bas. On lui avait dit tu vas faire des films super, nickel. Genre, il avait vu John Woo qui avait fait Walter Face, gros succès. Il s'est dit ouais, pareil, je vais manger les biftons. Et il s'est fait niquer la tête à tourner des nanars tels que Black Mask 2, ou avec des acteurs imposés américains bien sûr. Alors on retrouve donc Tobin Bell, John Polito. Excellent acteur quand même, hein, qu'on a vu dans la première saison d'Homicide. Lui, il a duré qu'une saison dans Homicide. Il crève carrément, hein, dans la première saison. Et puis tellement ça, parce qu'on le retrouve mort noyé dans le port, avec rien dans le vide. Donc ils savent pas trop si c'est un accident, un suicide, le mal-être du flic et tout. Et du coup, Daniel Baldwin, déjà qui picolait pas mal et tout, il picole encore plus. Et du coup, bah, Daniel Baldwin, qui a une saison de plus d'homicide, puis ensuite il se casse aussi parce qu'il en a marre. Parce que John Polito, eh ben, il s'est simplement foutu à l'eau parce qu'il en a marre. Alors, John Polito, donc, dans Black Mask 2, il y a également Teresa Herrera et Tracy Lord. Lord, ne pas négliger. Parce que franchement, reconversion, moi je trouve réussi hein, pour cette nana hein, qui se démerde vraiment pas mal dans les téléfilms dans lesquels on peut les on peut la voir. Et puis bon, non, franchement, respect quand même à Tracy.
Mais d'ailleurs, ce film a la statue d'un téléfilm tellement il est à chier. Quand même.
Ah oui, oui, non, mais c'est sur TF6, donc c'est jeudi prochain à 20h50.
Et j'en parle parce que je l'ai acheté alors. Hein.
Ça fait mal.
Je sais, ouais.
Le Clint de la semaine, c'est sur 13ème rue. Sur 13ème rue, lundi prochain, 20h50, c'est Firefox, l'arme absolue de 82.
Attention. Je tiens à faire un clin d'œil à Marco Lanier, qui est journaliste spécialisé dans la sécurité informatique, parce qu'il a lu sur mon blog à propos des sorties donc de Spirou et de...
Flux
glacial. Et il m'a dit ce qu'était donc le Firefox. C'est un MIG qui, enfin, c'est inspiré d'un MIG qui a réellement existé. Mais il existe une arme qui s'appelle le Foxfire, qui est en fait un gros radar, un radar que l'on met dans le nez des avions de combat et qui sert en fait à détruire l'équipement informatique du, de l'avion qui est en face, à condition qu'il soit dans l'angle. Donc voilà, donc c'est, mais il faut penser en russe, hein, à mon avis, pour comprendre ça.
Ah bah, ils ont toujours, toujours un tupo d'avance. Le film de la, le film de la semaine quand même, pour moi ça restera le film français qui va passer sur TPS Star jeudi prochain à 21h30, Mon Idole, le premier film de Guillaume Canet,
ouais,
avec François Berléand, Diane Kruger, qui décrit justement le monde de la télé, le monde des producteurs et le monde des sous-fifres, on va dire, comment en deux je commence par te porter le café, je finis producteur d'émission. On en connaît plein qui racontent cette histoire et qui sont actuellement à la télé en prime time. Qui ont commencé, oui, mais j'ai commencé, je ramenais le café et tout. Le plus ancien d'eux encore en activité, c'est Michel Drucker. Il commence toujours en disant, j'ai commencé, je portais le café, je faisais n'importe quoi et tout. Le plus jeune d'entre eux qui est en activité au niveau de l'âge. Est...
C'est Sébastien Follin.
Non.
C'est
alors,
Arthur.
Allons, mais c'est sur la 3, c'est Marco, voyons.
Ah oui,
il a aussi commencé à porter le café pour Patrick Sabatier.
Mais d'ailleurs, il y a plein de... Dans Mon Idole, il y a plein de featuring.
Oui, il y a plein de featuring.
Et en assez plus, exceptionnel.
Ça tue, quoi. C'est vraiment un film qui tue, hein, vraiment, il n'y a pas de problème.
Oui, au premier sens. Hein.
On rappelle ce que c'est, le featuring.
Donc, c'est une
participation amicale.
Amicale, voilà.
D'accord.
Voilà,
c'est comme le Cameroun. Ouais,
attention, quota francophone, mon gars.
D'accord.
Ok.
Bon, j'ai tout dit, c'est bon. Hein.
Bah,
Mon Idole, donc, un TPS Star, jeudi prochain, 21h30.
Eh ben, ça tombe bien, on va vite entamer sur l'agenda rapidement. Donc, sachez que la semaine prochaine, on recevra Gilles de pour le festival. Pour le festival Escale qui a lieu à la Croix-Falgarde du vendredi 3 au dimanche 5. Electro jazz, performance, vidéo, vidging, ciné-concert, chansons jazzy, ateliers gratuits et d'autres payants. Vente aux enchères, comico burlesque. Ça, il en parlera lui-même sur cette antenne dans cette émission Supplément Week-end samedi prochain à midi, et il le fera beaucoup mieux que moi. Voilà, ensuite il y a Tampopo qui sera aux abattoirs ce soir. Il y a 48 heures non-stop. Tampopo, c'est ce soir à partir de 21h, voilà, aux abattoirs, et c'est gratuit, donc allez-y parce qu'il y aura du son à écouter. Ensuite, il y a cette lecture non-stop à la chapelle depuis hier 20h jusqu'à demain 20h. Une lecture de Don Quichotte avec énormément de gens évidemment qui y seront, mais aussi par exemple Jean-Louis Clémenceau qui fera un concert de machine à écrire, Serge Lopez qui accompagnera la guitare, des plasticiens, des danseurs, des photographes, bref, il y aura vraiment une exposition en groupe. C'est intéressant, c'est gratuit, allez-y, c'est Don Quichotte, c'est en ce moment, c'est jusqu'à demain soir 20h. Voilà, à mon avis, il y en a un qui aurait bien aimé voir ça, hein, je sais pas, mais bon. Et petit pitonesque, allons-y.
Bon,
Thomas,
si vous avez loupé le début de l'émission et si vous voulez la revoir sur le net, enfin la réécouter, pardon. Une erreur de Xav, donc c'est pas la cinémathèque, hein, ce sera aux abattoirs Tampopo ce soir. Une deuxième erreur que t'as faite, bon, je vais pas pesantir dessus, c'était l'animal, c'était pour le mois de mai. T'as pas mal balancé sur Michel Oslo quand même, hein, en disant que c'était un enculé de première.
Et... je pense que je ne serai pas le seul.
Et mea culpa pour ma part, puisque j'étais fessé sur Seven of Seven. À ce propos, je confirme du sport, j'avais raison, la Palme d'Or 79 à Cannes, c'était bien, avec Zeko, Apocalypse Now et le tambour. Hein.
J'avoue.
Ah, voilà. Et puis bon, tu parlais que.
All the Jazz l'année suivante en 80.
Voilà. Et puis je voudrais juste dédicacer l'émission à ma petite copine qui a 27 ans aujourd'hui. Voilà.
Donc voilà, donc on la salue quand même, Sabrina, voilà, à 96% Thomas est avec toi. du sport doit le savoir, mais il le sait même pas. Voilà, Supplément Week-end, rendez-vous la semaine prochaine sur cette antenne Radio FMR à partir de midi, donc avec un invité. En attendant, la suite des programmes du sport. On va prendre la suite, 15h Zama Farai du reggae, 17h Vie d'ordure, 18h30 Clac Nova, 20h la Stétéro Expérience, 21h30 Liquid Sky, 23h Brick Beat Expérience, le tout en direct et en mono sur Radio FMR 89.1 MHz et sur le net. Ciao, see you, bye.
Ciao.